sommes en conformité avec sa volonté. Que sa parole nous soit apportée selon les besoins de nos cœurs, selon ce que nous avons accompli dans le marché. Que nous ne soyons pas disqualifiés. Ce soir, nous lirons dans le livre de Josué. Le livre de Josué est comparable au livre des Éphésiens. C'est dans Josué que les enfants d'Israël sont placés chacun selon sa tribu dans la position qu'il doit occuper. Et le livre dans les Éphésiens nous place également dans notre position en Christ. Ce soir, nous allons juste voir un petit sujet pour nous exhorter, savoir où nous en sommes. Josué chapitre 11. Versets 22 à 23. Il ne resta point d'Anakim, ce géant. Dans le pays des enfants d'Israël, il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Si vous regardez, il s'agit des Philistins. Ce sont ceux qui leur causent encore beaucoup de problèmes aujourd'hui. Mais ce n'est pas le sujet ce soir. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion. d'après leurs tribus. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons-nous asseoir. C'est un seul pays qui est donné aux enfants d'Israël. Ce n'est pas plusieurs pays, mais c'est un pays qui est divisé, ce que la Bible appelle des portions. Alors, pour chaque tribu, à chacun sa portion. C'est le titre. À chacun sa portion d'après leur tribu. Et la répartition, elle est faite toujours dans Josué. Chaque tribu est placée là où elle doit être placée. Au verset 8 du chapitre 12, il nous est dit que dans ce pays, on peut même commencer au verset 7, voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain à l'occident, depuis Baal-Gad dans la vallée du Liban jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion, dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert et dans le midi, pays des Hétiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Un seul pays pour tous ces peuples. Et ce pays est donné, n'est-ce pas, à Israël. Il y avait une région montagneuse, il y avait des régions, il y avait des vallées, des plaines, ben, il y avait des tribus selon ce que Dieu a décidé, selon la manière dont Josué va les mettre, les répartir. Eh bien, il y en a qui auront des régions montagneuses, il y en a qui auront des plaines, ou parfois les deux, il y en a qui seront plus dans les coteaux, et ainsi de suite. Mais aucune tribu n'a eu le privilège de choisir son territoire. Comme c'est comparable au livre des Éphésiens, nous, les chrétiens, nous n'avons pas à choisir notre position. C'est le Josué d'aujourd'hui qui doit nous placer là où nous devons être, dans ce que nous devons faire. Si nous sommes agriculteurs, si nous sommes vignerons sur les coteaux, si nous sommes des éleveurs ou des pêcheurs le long de la mer, c'est à Josué de nous placer. Dites amen à ça. Mais en tant que chrétien, dans les chrétiens, il peut y avoir aussi des tribus, entre guillemets. L'épouse, elle est une seule tribu, en fait. C'est celle qui devait être tout près du Seigneur, aux alentours du tabernacle, du sanctuaire, c'était les Lévites. L'épouse étant l'antitype des Lévites. Et dans les Lévites également, il y a aussi une répartition des places selon les familles, où vous voyez Moïse et Aaron à l'entrée du temple. Vous voyez les Kéatites, les Mérarites, et ainsi de suite. Donc, par famille, telles qu'ils sont disposées. Toujours, non pas selon leur choix. Ce n'est pas Aaron et Moïse qui ont décidé de se trouver devant l'entrée du temple, mais c'est Dieu qui les y a placés. Et vous, de même, nous tous également, chacun à sa place, là où il est, même si la place peut vous paraître grande, c'est Dieu qui vous y met. Même si la place peut vous paraître petite, c'est toujours Dieu qui vous y met. Et il n'y a pas de plus petite place ou de plus grande place. Vous savez, la responsabilité que Moïse avait personnellement, si j'avais vécu dans ces temps-là, Je n'aurais pas voulu être à la place de Moïse. Sincèrement. J'aimerais bien avoir la récompense de Moïse, mais je n'aimerais pas être à sa place, n'est-ce pas, à conduire le peuple. Ça n'a pas été facile pour lui. Hein, par moments, il a même demandé à Dieu, reprends-moi. Oui, tellement c'était compliqué. Donc, aucune tribu n'a eu le privilège de choisir son territoire. Et visuellement, comme cela, en fait, chaque territoire a été tiré au sort. Ça, c'est la manière dont on peut percevoir. Dans Josué 13, on va lire une partie du verset, la deuxième partie du verset 6. Pour sortir juste le contexte, on ne peut pas lire tout. Donc on peut dire, je chasserai les Misrephothaïm, tous les Sidoniens, ben je les chasserai devant les enfants d'Israël. Il dit, donne seulement ce pays en héritage par le sort. Amen. Par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit. Et divise maintenant ce pays par portions entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Donc ça semble être un tirage au sort. Mais nous devons savoir que tout tirage au sort, même si pour nous ça semble être le hasard, Dieu contrôle chaque tirage au sort. Même le loto, Dieu contrôle ça. Amen. Il le contrôle tellement bien qu'il est difficile, si pas impossible, à un chrétien de gagner le super gros lot. Il n'en a pas besoin. Dites amen à ça. Donc, quand vous entendez à la radio cette publicité que ce vendredi, il y aura un grand jackpot, ne dites pas, je vais tenter ma chance. Ça ne sert à rien, à moins que vous ne soyez pas un enfant de Dieu. Le tirage au sort est contrôlé par Dieu lui-même. Pour le montrer, on peut le voir dans Jonas. Jonas avait une mission bien précise. Quand on vous dit le destin quand même, le destin, c'est Dieu qui forme notre destin à nous tous. Jonas, chapitre 1er. Lève-toi, verset 2. Va à Ninive. La grande ville écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. C'est la mission qu'on lui confie, que Dieu lui confie. Et Dieu n'a pas alerté toute l'assemblée, disant que j'ai dit à Jonas d'aller à Ninive. Dites amen à ça. Ce que Dieu vous met à cœur, si c'est Dieu qui le fait, il va le faire avec vous. Et s'il faut inclure quelqu'un d'autre, ne vous en faites pas. Faites confiance à Dieu. Dieu parlera avec le quelqu'un d'autre. Amen. Et vous verrez qu'en fait, Dieu a maîtrisé les deux bouts. Jonas, il a eu l'ordre. Il se leva pour s'enfuir à Tarsis. Mais quand Dieu lui demande d'aller à Ninive pour parler contre Ninive, vous savez, Dieu prépare déjà le cœur des Ninivites à recevoir la parole. Si Dieu envoie un prophète, Dieu prépare toujours un peuple qui recevra ce message, le message par un prophète envoyé de Dieu. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Ouais. Si Dieu a permis qu'il ait de l'argent en empoche, eh ben, souvent on dit Dieu a pourvu, mais Dieu n'a pas pourvu pour aller là-bas. Et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Dieu parle par la nature, par sa création. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Ça ne calme pas la tempête. Les gens se mobilisent, ils se sanctifient, ils enlèvent tout ce qui peut les alourdir. Eh bien, non, ça ne fonctionne toujours pas. C'est que quelque part, il y a quelque chose que Dieu a demandé que quelqu'un ou qu'un groupe de personnes le fasse, mais ce n'est pas fait. Les catastrophes que nous vivons sur la terre sont autant de messages que Dieu envoie sur la terre. Et nous devons comprendre que cette terre aujourd'hui a besoin de se repentir. Parce que nous voyons toutes ces catastrophes, ne disons pas que Dieu est méchant. Si la terre au moins se repentait, elle verrait que Dieu est bon. Et il s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort. » Amen. Pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ce n'est pas un hasard. C'est exactement sur lui que le sort devait tomber. Amen. Donc, là où vous êtes, ce n'est pas un hasard. Et si vous subissez des problèmes, ce n'est pas un hasard non plus. C'est là que vous devez être. C'est là que vous devez assumer votre place. C'est la même chose pour la croix que nous devons porter. Votre croix n'est pas un hasard. C'est votre croix. Ce n'est pas la croix du voisin. C'est la vôtre. Ça va? Vous avez décidé de suivre Jésus? Eh bien, pour le suivre, c'est une des conditions. Vous devez porter votre croix. Luc 9. Ne vous préoccupez pas du fait que le voisin ne porte pas sa croix. Vous commencez par porter la vôtre. Luc 9. Verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Amen. C'est une condition. Si vous voulez venir après lui, commencez par renoncer à vous-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Je ne vais pas répéter l'histoire que je vous ai souvent racontée. Hein? Cet homme qui arrivait là-bas, et le Seigneur lui a dit, Ben, bravo, quand même, bravo d'être arrivé jusqu'ici. Dis-lui, mais Seigneur, quand même, ma croix, c'était quand même terrible. Ah, tu trouves que ta croix était trop lourde? Oui, c'était trop lourd. Très bien. Entre dans la pièce qui est là. Il y a plein de croix là-bas. J'ai choisi la croix que tu aurais bien voulu porter sur la terre. Alors, il pèse les croix, il y en a une après l'autre. On prend une trop légère, il dit non, vraiment, ah, ça c'est trop facile, je ne vais quand même pas prendre ça non plus. À vaincre sans péril, là, on triomphe sans gloire, n'est-ce pas? Alors, on va prendre une trop lourde, c'est trop gros, non, ça c'est trop lourd, ça ne va pas. Puis il en prend une vraiment à sa mesure, il essaie, il marche, il fait deux pas, trois pas avec, et puis il vient, il dit, Seigneur, cette croix m'aurait convenu. Seigneur le regarde et dit, tu es sûr? Il dit, oui, cette croix m'aurait vraiment convenu. Seigneur lui dit, c'est drôle, c'est justement la croix que tu portais sur la terre. Oui, en fait, vous êtes équipé. Dieu vous a équipé pour la croix que vous devez porter. Vous allez penser peut-être que vous n'y arriverez pas, mais Dieu sait que vous y arriverez. Amen. Gloire à Dieu. Donc, rendez grâce à Dieu pour tout cela. La croix, n'est-ce pas, représente vos afflictions, vos persécutions, vos souffrances, vos problèmes, vos soucis. Ces choses vous sont destinées. C'est ainsi que vous arriverez là-bas et pouvez revendiquer le titre de vainqueur. Parce que vous ne pouvez pas vaincre sans combat. Vous devez combattre. Et les obstacles qui sont devant vous, les problèmes qui sont devant vous, quand vous priez, ne demandez pas à Dieu d'enlever ces obstacles qui sont là. Dites amen à ça. Jésus-Christ à Gethsémané, il savait ce qu'il attendait. Lorsqu'il s'est retiré pour prier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Voyons un peu dans Matthieu 26. Verset, on peut lire à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit au peuple, aux disciples, pardon, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. C'est une veillée, frère Benoît. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Eh bien, non. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que Dieu veut de nous, c'est ce qui va arriver. Alors, ça ne sert à rien de demander à ce que ça soit enlevé. Demandez seulement à Dieu la grâce de passer victorieusement par-dessus cela. Amen. Il n'y a pas lieu, donc, je disais, de regarder à la croix des autres. Hein? Pierre, lorsque Jésus, juste avant de monter au ciel, il était avec ses disciples, il regarde Jean, c'est le disciple qu'il aimait, hein, Jean 21. Jésus parle à Simon-Pierre. Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et Pierre devait être équipé pour paître les brebis. « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Désormais, ce n'est plus le cas. » Dites Amen à ça. Quand Dieu vous a assigné à une mission, maintenant, vous n'avez plus à aller où vous voulez. Vous allez là où Dieu veut que vous allez, que vous devriez aller. Et te mènera, non, tu es en, pardon, tu es allé où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra, t'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre, il a entendu ce qui va lui arriver. Mais moi, on me dit ça, et les autres, et l'autre, celui qui... Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Il voit venir le chouchou. Le chouchou vient. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» C'était les autres qui lui avaient poussé à demander, n'est-ce pas ? En le voyant, Pierre dit à Jésus et à celui-ci, « Seigneur, que lui arrivera-t-il, ton chouchou ? Qu'est-ce qui va lui arriver ?» Hein ? Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Ça ne t'importe pas. » Amen. Que va devenir tel frère ? Ça ne t'importe pas. Dieu sait ce qui va devenir. Toi, suis-moi. Le Seigneur aurait pu lui dire, lui, il ira dans l'île de Patmos. Mais le Seigneur ne lui a pas dit ça à Pierre. Donc vous voyez que Pierre, même si on lui montre que son avenir est sombre, physiquement parlant, devant lui, celui de Jean n'est pas plus rose non plus. Parce que Jean va se retrouver dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Il sera même mis dans l'huile bouillante. Où les gens diront que Jean a dû avoir beaucoup de cauchemars. Il n'a pas eu facile. Toi, suis-moi. Tout ce que nous avons à faire, c'est suivre le Seigneur. Quand Jésus dit qu'il porte, si vous voulez le suivre, si vous voulez être son disciple, ça veut dire si vous voulez apprendre de lui, si vous voulez qu'il vous apprenne quelque chose, qu'il vous enseigne quelque chose, portez votre croix. Il va vous enseigner par vos afflictions. Il va vous enseigner par vos persécutions. Il va vous enseigner par vos souffrances, par vos problèmes. C'est grâce à ces problèmes, à ces soucis, à ces souffrances, à toutes ces choses par lesquelles vous devez passer, pas toujours des histoires sombres, parfois des joies également. C'est grâce à toutes ces choses-là qui vous arriveront, les bonnes et les mauvaises, que vous aurez à bien le connaître. Savoir qu'il est consolateur, il faut passer par la douleur. Pour qu'il vienne vous consoler réellement. Paul dit, je suis passé par beaucoup de ces choses. Paul dit ceci, Paul l'a accepté. Donc, vous devez accepter d'être crucifié. Porter votre croix, ce n'est pas pour le plaisir de la porter, c'est pour aller vous faire crucifier. Dans 2 Timothée 3, Jésus a porté sa croix pour aller se faire crucifier. Ce n'est pas juste pour la porter et puis l'abandonner après. Non, non. Vous devez vous faire crucifier. C'est notre finalité à nous qui avons cru. Dans 2 Timothée 3, verset 10, Paul dit à Timothée, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Paul a pu expérimenter que Dieu délivre de ces choses. Là, il peut chanter « Délivré, délivré, Jésus-Christ m'a délivré. » Amen. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, je dis, Paul, en suivant le Seigneur, il devait passer par là. Et justement, je l'ai dit, lorsqu'on porte sa croix, lorsqu'on porte la croix pour apprendre tout ce qu'il a appris, l'excellence des révélations qu'il a reçues, hein, n'est-ce pas, Paul, Paul a dû passer par tout ça. Ne dites pas, j'aimerais bien être à la place de Paul. Ce n'était pas une place très enviable physiquement parlant. Il est passé par des souffrances extrêmement difficiles. Même abandonné à un moment par tous, où il dit, ils m'ont abandonné. Amen. La vie d'un chrétien, c'est une vie de combat. Ce n'est pas pour rien que vous êtes des vainqueurs à la fin. Et donc Paul, voulant apprendre, il a appris beaucoup de choses. Le Seigneur lui a fait d'excellentes révélations. Mais pour cela, il devait d'abord s'oublier, il devait crucifier, il devait se faire crucifier. Dans Galates 2, il le dit aux Galates. Verset 18, il dit, car, chapitre 2, verset 18, « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » Il dit, j'ai été crucifié. Amen. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, comme on vient de chanter, il faut croire en lui, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Toujours dans Galates 5, verset 24, il dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ça va? La chair, elle est crucifiée. Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Donc, le monde est en même temps crucifié, et lui, donc, pour lui, le monde est crucifié. Mais pour le monde, lui, il est crucifié. Ça va? Ça veut dire que vos passions, vos désirs, c'est de l'histoire ancienne. Ce n'est plus la chose qui nous concerne. Et vous ne choisissez pas votre croix. Vous ne savez pas ce qui est réellement en vous. Donc ne choisissez pas votre croix. Par où le frère Sébastien est passé, eh bien, le frère je ne sais pas moi, frère Robert, il n'est pas là, l'autre, eh ben, je peux citer son prénom, le frère Robert peut ne pas passer par là. Oui. Quand vous regardez parfois la situation de quelqu'un, d'un frère, il peut vous arriver de vous demander, de vous dire, Seigneur, fasse que je ne passe pas par là, je n'y arriverai pas. Mais donne-lui, priez quand même pour lui. Dites au Seigneur, donne-lui la force de passer par là. Donne-lui la force de vaincre, de passer par où il passe. De vaincre ces choses. C'est Dieu qui choisit votre croix pour vous. Parce que c'est lui qui vous équipe. Parce qu'il est juste. Il vous aura doté d'un équipement que les autres n'auront pas. Pour vos problèmes. C'est sûr que vos problèmes, votre voisin ne survivrait pas à cela. Parce qu'il n'est pas équipé pour cela. Mais lui, il est équipé pour ça. Ça va? Quand vous voyez quelqu'un debout après certaines frappes qu'il a reçues, c'est la grâce de Dieu. Vous dites, comment fait-il pour tenir debout? Le cantique dit, c'est en moi, c'est dans mon cœur. Les choses sont dans votre cœur. Et justement, Jean dit, en fait, il y a ceci, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en vous, il sait exactement ce qu'il vous faut pour affronter une situation bien déterminée. Et vous l'affronterez, cette situation, de manière victorieuse. Maintenant, lorsque on vous a donné votre portion, on vous a mis dans le territoire où vous devez être, vos montagnes, vos vallées, vos coteaux, vos plaines, tout cela vous seront attribués d'après votre tribu, d'après ce que vous êtes. Les combats, nous venons de le lire dans 2 Timothée 3, on ne va pas relire, les combats de ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont pas les mêmes combats que, on a lu la fois passée le psaume 73, que le combat du méchant. Le méchant, c'est un chrétien. Hein. C'est un chrétien qui a la parole de Dieu dans la bouche, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a la parole de Dieu, mais il ne met pas ça en pratique. Et celui-là, ben, il n'a pas le même combat que vous, qui êtes d'une certaine race, d'une race particulière. Il n'est pas bâti comme vous. À lui, Dieu le laisse, il le laisse obtenir pas mal de choses, il prend de l'embonpoint, il est toujours riant, il n'a jamais de problème. Mais vous n'avez pas à le regarder, lui. Vous avez une situation particulière. Dieu doit vous façonner d'une manière particulière. Et pour cela, vous continuez toujours à rendre grâce à Dieu. Donc, c'est selon votre tribu. Et nous sommes de la tribu des Lévites. Et les Lévites avaient ces fonctions de sacrificateurs. Amen. Ils avaient les fonctions des ustensiles du temple, d'en prendre soin. Ils avaient des fonctions de chantres, n'est-ce pas? Ils avaient ces fonctions toujours de proximité du Dieu vivant. Et étant Lévite, étant cette proximité, vous êtes beaucoup plus combattus. Le combat est féroce avec vous qu'avec d'autres. Mais, par la grâce de Dieu, vous tenez toujours debout. Par moments, vous pensez que vous allez flancher, mais vous tenez quand même debout. Maintenant, si Dieu dit à Josué, à chacun sa portion, et que Jésus dit que chacun porte sa croix, il ne vous appelle pas à l'individualisme. N'est-ce pas? À dire, bon, moi, mes problèmes, l'autre, je ne m'en occupe pas. Non, non, ce n'est pas ça. Même déjà dans Josué, il leur dit ceci. Quand certains auront déjà, eux, ils ont eu plus facilement que d'autres, avec moins de combats que d'autres, leur portion, ce n'est pas parce qu'ils ont eu leur portion qu'ils peuvent se dire aux autres, bon, que Dieu vous bénisse, hein. Allez-y. Non, non, non. Josué dit, Dieu dit à Josué, ceux-là doivent accompagner les autres. Dites amen à ça. Josué chapitre 1er. Ce sont les Rubénites hein, qui ont eu leur portion avant les autres. Verset 10, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, les Rubénites, eux ils ont déjà reçu. Aux Gadites, ils ont déjà reçu. Quand ils ont reçu, ils ont combattu tout Israël. Et à la demi-tribu de Manassé. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. » Ok ? Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse, de ce côté-ci du Jourdain. Maintenant, on va traverser le Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, dites amen à ça, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Vous connaissez les armes? Éphésiens 6, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis, vous reviendrez quand ils seront au repos, n'est-ce pas? Quand ils seront en possession du pays que l'Éternel, Dieu, leur donne, alors vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. C'est-à-dire que nous n'avons pas à rester disant, maintenant j'attends l'enlèvement, eh bien, pour mon frère Sébastien, tant pis. Enfin, il n'a qu'à se débrouiller. Non, vous devez attendre l'enlèvement, gloire à Dieu si vous êtes au repos, gloire à Dieu si vous êtes déjà dans votre position, vous ne pouvez être tranquille que lorsque frère Sébastien sera aussi tranquille. Parce que si c'est un enfant de Dieu, si c'est un élu de Dieu, l'enlèvement ne peut pas se faire sans lui. Dites amen à ça. L'enlèvement doit se faire avec le nombre que Dieu a déterminé. Pas un seul ne peut manquer. Alors, si ce monde vous tracasse et que vous voulez rater la venue du Seigneur, priez pour le frère, l'élu, qui est à la traîne. Priez pour lui afin qu'il ne traîne plus, hein, que nous soyons prêts et que nous partions. N'oubliez pas, Israël n'est pas sorti de l'Égypte parce qu'il y en a 2 qui n'étaient pas prêts. Il n'arrêtait pas de se battre. Oui. C'est ta raison. Ils ont dû attendre encore 40 ans. Donc, il faut, dans ce cas, il faut vraiment pouvoir, et c'est, je crois, c'est peut-être ça le but, n'est-ce pas, de la veillée que vous avez cette nuit. C'est le but de vos prières chez vous, de vos veillées personnelles même, chez vous. C'est le but de nos prières dans nos maisons. C'est le but de nos prières chaque jour. Pas seulement le jour de la veille. Hein. Pas seulement à l'heure de l'offrande du soir. C'est, la Bible nous dit, prier en tout temps. Éphésiens, chapitre 6. On voit l'équipement, les armes qui sont là. Verset 18, il nous dit, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela, c'est-à-dire faites attention, soyez attentifs à cela, veillez à cela avec une entière persévérance, sans vous décourager. » Dites amen à ça. Et priez pour tous les saints. Amen. Priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Vous savez, quand vous priez pour l'Assemblée, vous voyez, vous pouvez voir si l'Assemblée est à la traîne. Il y a des périodes comme ça où l'Assemblée est froide. Si vous le ressentez, que ça soit votre sujet de prière. Il y a des périodes où l'Assemblée, où vous voyez vraiment que les gens sont à la traîne, et des périodes où l'Assemblée, eh ben, les gens sont vraiment dans le bain. Il faut prier. S'ils sont dans le bain, eh ben, priez pour que ça dure. Et si vous voyez qu'il y en a un qui n'est pas là, priez pour lui. Si vous avez l'habitude de voir l'un ou l'autre frère, et puis le frère a disparu, vous ne le voyez plus, priez pour lui. Téléphonez-lui. Demandez-vous qu'est-ce qu'il est devenu. Peut-être que le frère n'est pas encore dans sa portion. Jacques, chapitre 5, et nous allons prier. Verset 16. Allez, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Si c'est oui, qu'il appelle les anciens de l'Église. Amen. Et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi, il faut croire en ce que vous priez, sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc ne le condamnez pas. Priez pour lui. Mais qu'est-ce qu'il doit faire ? Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ça va? Lorsque quelqu'un commet une bêtise, puis me dit, pardon frère François, moi je lui dis, frère, c'est pas à moi que tu as fait la bêtise. Va voir la personne que tu as lésée. Ce n'est pas à moi qu'il faut confesser. Si c'est à moi que vous m'ayez... Vous m'avez fait du tort. Et priez les uns pour les autres. C'est à ça que je voulais en arriver. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficace. Amen. Priez donc jusqu'à ce que l'Éternel et accordez du repos à tous vos frères. C'est là que Josué dit que vous pouvez enfin venir vous installer paisiblement, n'est-ce pas? Josué dit, jusqu'à ce que, dans verset 15 du chapitre 1er, n'est-ce pas, il dit, vous reviendrez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous. Dites amen à ça. Donc, vous priez les uns pour jusqu'à ce qu'ils aient du repos. Maintenant, si parmi les autres tribus, Judas ou un autre Siméon, ben, s'il est à la traîne, ben, priez pour que Siméon puisse avoir sa place. Jusqu'à ce que Siméon soit au repos, jusqu'à ce que Dieu lui ait accordé du repos. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de requêtes du genre « Frère, priez pour moi, j'ai tel et tel problème. » Ça va? Jusqu'à ce qu'il n'y ait que des actions de grâce, des remerciements. Mais tant qu'il y en a qui auront besoin des prières, et je crois que c'est le cas encore jusqu'à aujourd'hui, et ça risque d'être le cas jusqu'à l'enlèvement, prions jusqu'à la dernière minute, n'est-ce pas, les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. N'oubliez pas, chacun reçoit selon sa tribu, et vous êtes des Lévites. Pour être chantre, Dieu vous a équipé d'une belle voix pour chanter. Il y a des Lévites qui ne savent pas chanter. J'en connais un qui vous parle ce soir. Mais ce n'est pas grave. Je chanterai avec ceux qui savent chanter. Amen. Prions au Seigneur. Père Céleste, te remercions ce soir pour l'héritage que tu nous as légué, pour le pays que tu nous as donné. Dans ce pays, il coule le lait et le miel, tout ce dont nous avons besoin. C'est un pays qui boit l'eau. C'est un pays où tu as les yeux continuellement fixés. C'est un pays de semences, où la semence germe et croît. C'est pourquoi nous voulons te dire merci ce soir pour la place que tu nous as, où tu nous as placés, où tu nous as mis. Et Paul dit qu'ils ont reçu toute bénédiction spirituelle là où tu les as placés. Puissions-nous en recevoir. Et nous te disons merci pour cela, pour toutes les merveilleuses bénédictions que tu nous as accordées. Ces bonnes et ces moins bonnes choses qui nous sont arrivées, que tu as fait concourir, pour notre bien à tous. Nous voulons marcher tous d'un même pas, te rendant grâce, nous joindre nos cœurs, joindre nos louanges au cœur des anges, chanter ta gloire, accomplir de nombreuses actions de grâce. Et t'apporter également des requêtes. Non pas seulement en notre propre faveur, mais également en faveur de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Aussi, Saint-Esprit qui connaît ce dont nous avons besoin dans nos faiblesses, c'est un esprit qui crie « Abba Père ». Et il connaît nos besoins. Et il sait comment nous pouvons demander cela. Et tu nous l'as promis pour que nous te demandions des choses justes, non seulement pour nous-mêmes, pour nos frères, pour nos sœurs, pour tous ceux avec lesquels tu nous as mis, avec lesquels tu nous as placés. Et toi qui connais les besoins, que tu nous inspires dans nos prières et dans nos requêtes. Merci pour cela. Te remettons la suite de la soirée, de la nuit, entre tes mains. Les prières, les méditations. Et même le sommeil. Parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que tu donnes à chacun, selon le besoin qu'il a, pour bien occuper le poste dans lequel tu l'as mis. Il y a Habakkouk qui disait qu'il restait à son poste afin d'entendre ce que tu avais à lui dire. Ne voulait pas aller ailleurs. Que chacun occupe son poste en attendant que tu viennes. Si tu tardes à venir, te remettons nos prochaines réunions. Celle de la nuit, celle de demain, celle d'après-demain, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu viennes. Que nous puissions, que nous sachions comment nous attendre à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te le demandons. Bénis ceux qui restent, bénis ceux qui partent. Bénis ceux qui sont dans les maisons, ceux qui doivent encore venir, que tu sois avec eux, que tu aplanisses leur chemin. Pour nos bien-aimés qui sont malades, nos prières montent vers toi, afin que tu te souviennes d'eux. Ces meurtrissures bénies, par lesquels nous obtenons notre guérison. Ô Dieu, nous, notre regard se tourne vers cela pour ceux qui souffrent de diabète, d'hypertension, ou de toutes sortes de maladies, Parkinson ou autre chose. Toutes ces maladies d'Égypte, nous te prions pour nos frères, nos sœurs, car toi, tu guéris de toutes les maladies. Sois-nous miséricordieux. Et entends nos prières, non pas parce que nous le méritons, mais tout simplement à cause de ta bonté. Car nous ne te l'adressons pas en notre nom, mais au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.